la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi, Pierre Bonjoué, Daniel Morin, Albert Algou, Charles-Marc et Top Clavier, notre ami Philippe Besson. Bonjour Philippe, est-ce que vous avez des attaches nantaises dans votre famille, dans votre entourage?
Non.
Dommage, parce que le public est quasiment nantais, et je pense que ça aurait changé l'humeur de cette émission.
C'est vrai, je vois ça. Alors finalement, mais j'ai réfléchi, je crois que j'ai un arrière-grand-père nantais.
Voilà. Donc on accueille Philippe et son gars. Voilà, ça change tout.
Évidemment. Bonjour
c'est
à tous.
Tellement bon la démagogie.
Fifi le Nantais.
C'est tellement bon.
Ça marche.
Arrête tes mensonges. C'est le titre de ce roman qui est sorti il y a à peu près un mois.
Exactement.
Chez Julia et qui est déjà en tête des ventes. Et la première chose que j'ai dite à Philippe Besson lorsqu'il est arrivé, rendez-nous au moins grâce en reconnaissant que nous vous avons invité avant que le classement du point ne vous propulse en tête des ventes. Et félicitations d'ores et déjà.
Merci beaucoup.
Nous allons parler de ce livre et tout faire pour qu'il reste en tête des ventes. J'espère, Père Albert, que vous avez compris pourquoi nous avons invité Philippe Besson.
Mais non, Guy, comment pouvez-vous me poser une question pareille? Si au lieu de vous contenter de la quatrième de couverture et des fiches rédigées avec les pieds par notre rédacteur en chef Jean-Baptiste Bussière, voilà, Jean-Baptiste, familièrement surnommé par ses amis GNB, non en raison de son penchant immodéré pour l'alcool, qui est bien réel, mais à cause de ses mœurs interchangeables et interlopes, ou si vous préférez, de sa double postulation sexuelle. Bref, Nangui, si vous aviez lu « Arrête avec tes mensonges », le livre de Philippe Besson, déjà propulsé en tête de toutes les ventes,
oui,
vous venez de le dire,
oui,
vous comprendriez que cet ouvrage ne pouvait que susciter mon enthousiasme. En effet, ce récit, aussi initiatique qu'élégiaque, dont un des topoïs tragiques et l'emprise mortifère de la culpabilité, constitue à mes yeux le viatique le plus efficace qui soit pour un jeune en recherche. Plus simplement, car soudain je me rends compte que je me suis mis à parler comme Leïla.
Ça va ?
Voilà un bouquin qui
pas
pourra...
Mal.
C'était bien, hein? Voilà un bouquin qui pourra guider utilement un jeune homme qui se sentirait coupable de préférer une partie de bilboquet humain avec un copain plutôt qu'avec une copine. Mais je sais que même là, vous êtes largué, Nangui, et je vais donc vous faire le pitch.
Non, j'ai déjà joué au bilboquet.
De passage à Bordeaux, donc le pitch, s'il vous plaît, le pitch.
Le résumé, le pitch.
Bon. J'ai du mal à le prononcer.
Ouais, je sais.
De passage à Bordeaux, l'âge, dans un hall d'hôtel, le narrateur aperçoit un jeune homme dont la ressemblance affolante avec son premier amour le saisit. Une rencontre qui nous reporte 25 ans auparavant à une autre rencontre entre deux adolescents que tout oppose. D'un côté Philippe, fils d'instituteur, lycéen studieux, laborieux. Non, studio, pas laborieux. Il est brillant. Déjà un brillant d'intello. Et de l'autre, Thomas, fils de paysan, rebelle charismatique et mystérieux. Leur attirance est immédiate, mais leurs étreintes brûlantes doivent rester secrètes. On est quand même à Barbezieux, au fin fond des Charentes.
Retourne doucement.
Oui, je sais, c'est un peu chez toi là-bas. Au milieu des années 80, où les garçons sont programmés pour rouler en 103 SP et draguer la jeune femelle, cette boule de vis, au baloche du coin. Dans cette relation, Philippe découvre la morsure du sentiment amoureux, l'attachement charnel et son pendant, la jalousie. C'est page 109. Mais soudain... Comme on dit sur M6, c'est le drame. Thomas va disparaître de la vie de Philippe. Une séparation vécue par celui-ci comme un manque abominable. Ça, c'est page 125. 25 ans plus tard, vont-ils se retrouver? Et qui est ce jeune homme rencontré par le narrateur dans cet hôtel de Bordeaux? Telles sont les questions auxquelles, évidemment, je ne répondrai pas ce matin, sous peine de me faire rouer, tabasser, malaxer par Philippe Besson si je dévoilais la fin de l'histoire. Sur ce livre qui m'a bouleversé, un peu de sérieux maintenant, tant par son fond que par sa forme, je conclurai par une remarque précise. À la page 94,
au
milieu exact du livre, en son mi-temps ou médium tom-tom, comme dirait encore Leïla, figure une phrase capitale que voici. Le reste du temps, on s'embrasse. On se suce, on s'encule. Cette phrase m'a touché, mais je dois être honnête, c'est Nagui que je taquinais tout à l'heure, qui me l'a signalé en me disant, je suis tombé dessus par hasard, du coup, j'ai pas besoin de lire le bouquin, parce que ce passage à lui tout seul résume cette relation contre nature, qu'il faut bien appeler deux invertis. Je ne suis pas homophobe, homophobe. C'est quand ça résonne.
Homophone. Comme le sonotone dans mon panier.
Et j'en chiale. Et homophobe, Père Albert, mais quand même, Leïla est autrement mieux gaulée que Daniel Morin. Voilà l'analyse que m'a fait Nangui de votre livre, Philippe Besson. Je vous laisse donc entre de bonnes mains et moi je dois y aller. Bonne émission.
Merci.
La bande originale, Nangui, sur France Inter.
Là là, bon, ça va être facile de reprendre après tout ça.
Je vais te dire
la vérité. Et la première chose que j'ai dite au père Albert, c'est j'espère que tu ne vas pas t'appuyer sur cette phrase. Et on l'a pratiquement dite en même temps parce que chacun pensait à la même. C'est vrai que cette phrase d'une crudité sans limite, mais qui est le propre de votre plume, c'est quand il faut dire les choses, vous dites les choses.
Très belle phrase, rythme ternaire, pas de valence, verbe construction seul, pas de
oui,
COD.
Mais à la fin, on s'encule. Donc,
Et oui, mais c'est de l'amour.
D'accord. Mais justement, c'est ça que je voulais faire remarquer. C'est une histoire. C'est une histoire d'amour. Il se trouve que cette histoire d'amour...
Ah, il a du mal à...
Il se trouve que cette histoire d'amour est l'histoire d'amour entre deux garçons. Mais elle pourrait très bien être une histoire d'amour entre deux filles ou entre un garçon et une fille. La seule nuance, peut-être, et elle est de taille, c'est qu'il y a cette gêne du jugement et du regard des autres.
Oui, c'est ça. C'est un amour qui est réduit au silence, qui est voué à la clandestinité parce que c'est les années 80, que c'est une petite ville de province et que c'est deux garçons. Donc c'est vrai que c'est des gens qui ont peur du regard, de la moquerie, de l'insulte, de l'opprobre ou de la violence. Donc moi, je pourrais assumer les choses. D'ailleurs, quand je découvre mon homosexualité, j'en suis pas du tout catastrophé. C'est pas une nouvelle qui me terrifie, parce qu'au contraire, je
malgré la région, donc
malgré la région, voilà. Mais simplement parce que moi, à ce moment-là, je suis un garçon tellement normé que j'ai l'impression de découvrir une forme de différence et de singularité. Et ça je me dis, au moins, je fais pas comme tout le monde. Mais Thomas, mon amoureux, lui, il est enfermé dans cette obligation du silence, c'est-à-dire qu'il veut pas affronter les regards des autres. En plus, il est voué à reprendre, à continuer l'histoire familiale d'une manière.
Papa,
donc ça veut dire que lui, il peut pas assumer publiquement. Donc c'est deux garçons enfermés, oui, dans le mutisme.
Alors il y a trois chapitres dans le livre qui correspondent à trois dates. La première étant la date de la rencontre, de l'amour et de sa réalisation. La deuxième date étant cette rencontre faite avec une personne clé qui vous trouble. Oui. Vous croyez retomber sur Thomas, et il faudra lire le livre pour savoir si oui ou non vous tombez dessus. Et puis le dernier chapitre, c'est le décès de Thomas. Si j'en parle de ce décès, c'est pas pour révéler la fin, c'est pour vous demander si ça a été la raison pour laquelle, la libération pour que vous puissiez écrire ce livre et le publier, parce que tout est visiblement vrai, y compris la photo que vous avez prise de votre amour. Est-ce que vous avez attendu qu'il ne soit plus des nôtres pour pouvoir écrire sur lui?
Non, j'ai pas attendu qu'il soit plus des nôtres, parce que j'aurais préféré qu'il soit encore là. Mais c'est vrai que quand j'apprends cette nouvelle, au fond, c'est comme si on me donnait la fin de l'histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin, pour écrire un livre, de connaître la fin. Un livre, c'est une trajectoire. Vous connaissez le début, vous connaissez la fin. Après, pendant l'écriture, parfois, vous prenez des chemins de traverse, vous allez dans des endroits qui vous aviez pas imaginé fouler. Mais fondamentalement, j'ai besoin de connaître la fin de l'histoire. Et là, on me rapporte la fin de l'histoire. Et elle me plonge dans le chagrin, dans la tristesse et dans la colère, cette fin de l'histoire, et elle me plonge aussi dans le regret. Donc je suis plutôt animé par la colère et le regret quand j'écris cela, parce que j'écris comme quelqu'un qui n'a pas pu sauver l'autre.
Voilà. Et elle finit avec c'est une très belle fin pour l'histoire d'amour en elle-même, ce qui la rend encore plus triste.
Bon, il y a plusieurs aspects, Philippe Besson, qui m'ont intéressé dans ce livre. Le premier aspect, c'est la mémoire. Puisque comme c'est un livre à caractère autobiographique, sans dire forcément que c'est une autobiographie, parce que on vous connaît romancier, donc on se doute bien que voilà, vous êtes laissé aller parfois. C'est ce travail de mémoire, de sélection de ces souvenirs, et aussi du travail de recomposition du souvenir, parce que j'imagine qu'avec le temps, avec la relecture des événements et du passé, on retravaille ça aussi.
Absolument. Alors ça c'était une chose très troublante pour moi, parce que moi, vous le disiez, je suis romancier, donc moi j'adore inventer des histoires, inventer des personnages, faire fiction. Je suis venu d'ailleurs à l'écriture des livres pour vivre d'autres vies que la mienne, pour être quelqu'un d'autre que celui que je suis au quotidien. Non pas que ça m'ennuie d'être ce que je suis, mais puisque j'ai la possibilité de vivre autre chose, faisons-le à travers les romans.
Mille et une vies, quoi, c'est ça l'avantage.
Exactement. Ouais. Mais là, pour la première fois, effectivement, j'ai pas fait appel à mon imaginaire, j'ai fait appel à ma mémoire. Alors c'est très curieux, la mémoire, parce que on la convoque, on essaie on se dit, je vais me souvenir de ce qui s'est produit. C'est comme une boîte à musique, au fond. On ouvre la boîte, puis il y a la petite danseuse, et la musique revient, et tout nous revient. Et ça revient au début avec une très grande exactitude. Donc j'étais troublé moi-même de me souvenir aussi bien de ce qui s'est produit il y a 30 deux ans. Et puis après, à mesure que j'écrivais, je me dis, mais est-ce que cette mémoire, elle est absolument exacte ou est-ce que je la recompose? Mm-hmm. Est-ce que je la fantasme? Est-ce qu'il y a ce qui s'est produit ou ce que j'aurais voulu qu'il se produise? Donc il y a une sorte de mélange, en fait, qui se fait à ce moment-là. Et en même temps, c'est pas grave parce qu'on se laisse emporter et guider parce que c'est un livre écrit en état d'urgence et de nécessité. Ce qui est pas forcément ma situation habituelle. Moi, j'écris souvent guidé par le plaisir. Mm-hmm. Là, j'étais guidé par une forme de besoin impérieux. Et puis, encore une fois...
Oui, pardon, et de connaître la fin de l'histoire, oui, change évidemment absolument la perception, oui, du début, mmh, puisque vous connaissez
sa vérité. Absolument, ouais. Et surtout, je sais enfin mettre un mot sur cette histoire. C'est-à-dire que ce qui a été vécu à 17 ans, je me suis posé plein de questions. Je me dis, est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est une histoire de sensualité? Parce que vous évoquiez tout à l'heure ces verbes que j'emploie ici ou là.
Ou de transgression, ou de rébellion, voilà, ou de provocation. Ça pouvait être tout ça. À la fois, oui.
Et effectivement, avec des mots qui me sont donnés l'an passé, je comprends ce que c'était véritablement. C'est-à-dire j'ai une réponse à une question fondamentale.
Et l'autre aspect, c'est la langue. Parce qu'à partir du moment où la matière première n'est plus uniquement l'imagination, la projection dans des personnages fictifs, j'imagine que ça a une conséquence forte sur votre façon d'écrire.
Là aussi, ça change tout. C'est très étrange parce qu'au fond, le livre est écrit avant même que j'ai commencé à l'écrire. Il préexiste d'une certaine manière. Donc du coup, vous avez à vous préoccuper d'autre chose qu'à le trouver, qu'à l'inventer. Vous avez donc à vous préoccuper effectivement de la langue, du style, de la musicalité, de la temporalité, des allers-retours entre le passé et le présent. Donc il y a un travail effectivement sur la langue qui est beaucoup plus sans doute précis ou nécessaire que dans d'autres de mes livres. Donc c'est vrai que c'était là aussi assez troublant de travailler comme ça.
Plus cru aussi.
Et plus cru aussi, parce que je voulais justement qu'il n'y ait pas de filtre, qu'il n'y ait pas de phare, qu'il n'y ait pas de ne pas chercher à contourner, à faire des circonvolutions.
Appeler un chat un chat.
C'est aussi une histoire de sensualité, de peau, de corps, de besoin de l'autre. Donc, il fallait aussi raconter ça.
C'est un livre élégiaque pour moi, au sens... J'ai employé le terme pour me moquer tout à l'heure, mais plus sérieusement.
Pas pour pour rire.
C'est une élégie, c'est-à-dire c'est un très beau livre sur l'amour enfui. Le temps irrévocable a fui, l'heure s'achève. Il y a ça dans votre livre. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché.
La musique est très présente également.
C'est les années 80.
Ah bah oui, forcément. Oh là là. C'est ce que Thomas écoute, vous fait découvrir, en tout cas. Il vous fait découvrir Springsteen aussi.
Oui, c'est ça. Lui est très dans ça, oui.
Et vous, à la maison, vous avez plutôt un poster de Jean-Jacques.
Et oui.
Ces paroles enfermées que l'on n'a pas su dire.
Et comme par hasard, ces paroles enfermées qu'on n'a pas su dire, c'est-à-dire cette chanson résonne différemment.
Oui, alors c'est drôle parce que, au fond, comme quoi, finalement, la musique qu'on écoute nous définit quand même et nous qualifie absolument. C'est-à-dire que lui, Thomas, c'est un garçon comme ça, un peu mutique, sauvage, ombrageux. Et donc, Téléphone ou The Clash ou ce que vous voulez, ou Springsteen, ça lui correspond assez bien. Et moi,
c'est un rock, il y a la musique rock et lui, est costaud.
Et moi, je suis effectivement déjà un peu plus sentimental, un peu plus. Et Goldman me touche beaucoup à ce moment-là. On a l'impression de s'excuser quand on le dit aujourd'hui, mais vraiment, j'étais très fan, il y avait des posters et tout.
Il y a mieux que ça, il y a Hervé Villard aussi.
Non, mais ça c'est Duras, ça.
Vous justifiez en disant que Duras aimait beaucoup Hervé Villard.
Et les mecs, après, c'est fini, elle chantait à toute tête.
C'est fini.
Mais c'est super bien, ça.
C'est une chanson sublime, c'est une chanson déchirante.
Bien sûr.
Après, c'est fini.
Moi, j'aime bien nous aussi.
Nous.
C'est une illusion qui meurt, un éclat de rire en plein cœur. C'est la fin du premier.
Merci, mon père. Merci,
mon père.
Non, mais surtout la reprise. Pourquoi je veux dire pourquoi 200 fois. Pourquoi
ce silence.
Votre public nantais vient de partir.
Et dans les booms, vos parents, cher public nantais, vos parents dansaient dans les années 80 là-dessus.
Pas sûr, Nagui.
aussi Wham, George Wham, Michael.
George Michael. Quand on revoit le clip, parce qu'il sait, y a la chanson déjà, mais il faut revoir le clip avec les garçons avec Andrew short, au bord d'une piscine avec des shorts un peu lamés, tout ça. On se dit comment les gens n'ont pas compris à ce moment-là.
Même vous vous moquez, Philippe.
Non, mais j'ai le droit.
On va s'en sortir. Oh, ouais, c'est facile.
Non, je ne marque pas. C'est un hommage.
C'est un hommage.
C'est comme si j'étais raciste. J'ai le droit.
Non, mais ceci étant, c'était vraiment la musique de cette époque-là. Et quand on allait dans les booms, on dansait sur ça. Donc moi, j'ai pas honte d'avoir dansé sur ça. Oui, c'était.
Moi, j'ai pas vu pour George Michael. Pardon. Moi, j'ai pas vu pour George Michael.
Mais ça fait de vous une fille très pure.
C'est bien. Ça fait de moi une fille qui peut tomber amoureuse d'un garçon.
Et vous avez raison. Et il faut être comme ça. Et vous avez raison.
Philippe Besson, arrête tes mensonges. Arrête avec tes mensonges.
Phrase de ma mère.
On s'arrête voilà sur le titre parce que oui, phrase de votre mère, mais phrase qui revient aussi régulièrement et qui ne prend pas le même sens en fonction du contexte et de celui qui le dit.
Oui, parce que alors au départ c'est effectivement une phrase que me disait ma mère quand j'étais enfant, parce que comme j'avais une propension à inventer beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qu'elle sortait de mon imaginaire luxuriant, et donc je rencontrais des gens, je les croisais, j'inventais une biographie, je disais celui-là il est comme ça, et donc j'y mettais visiblement tellement de vraisemblance et d'aplomb qu'elle finissait par douter. Parfois c'était plus curieux, je disais que j'avais été emmené dans des voitures. Donc là, elle commençait à vraiment inquiète. Et donc, pour dissiper son inquiétude, elle me disait ça, arrête avec tes mensonges, qui est une façon de dire, arrête d'inventer des histoires. Bon. Et puis moi, j'ai fait ça de ma vie. C'est-à-dire, j'ai inventé des histoires pendant des années. Et puis, c'est aussi, au fond, une injonction faite à Thomas, d'une certaine manière, puisque c'est une façon de lui dire, tu t'es enfermé dans le déni, dans une forme de honte, de culpabilité, et peut-être que si tu étais allé vers ta vérité intime, ta vie aurait été différente.
Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit que Philippe Besson serait notre invité.
Oui, c'est Philippe Besson, immédiatement, quand j'ai pensé à vous, j'ai pensé à l'un de vos livres qui m'a beaucoup plu, c'est Vivre vite, consacré à une icône du cinéma.
Ah ben, il était venu ici en parler,
d'ailleurs. Oui.
Absolument.
James
Dean.
James Dean par les Eagles. Vous avez eu envie de voir ce qu'il y avait derrière l'icône.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné? Parce que vous êtes pas mal documenté. Si on doit revenir sur cet homme, cette légende, cette...
Ouais. Il aurait eu 86 ans avant-hier. Moi, j'étais très impressionné parce que
ça serait pas le même.
Comment oui, ça serait pas le même. Oui. C'est la grâce de mourir à 24 ans, c'est quelque chose
qu'on est entamé,
c'est ça. Et non, j'ai été frappé par le fait que c'était effectivement une icône. Voilà, c'est le petit gamin de l'Indiana qui devient l'idole d'Hollywood et qui tourne trois films légendaires. Bon, ça c'est pour la légende. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'aller derrière la photo, comme toujours. Et là, on découvre un petit garçon inconsolable qui perd sa mère à 9 ans et qui ne se remettra jamais de ce deuil originel. C'est-à-dire que là, c'est juste une sorte de pantin désarticulé. Et finalement, mourir à 24 ans est comme un épilogue presque prévisible à ce type-là qui aura traîné son chagrin, sa tristesse et ce manque qui l'aura dévoré pendant des années, d'une certaine manière. Donc c'est ça qui m'intéressait de raconter. C'était derrière ce jeune homme qui faisait rêver beaucoup de jeunes filles... Beaucoup de garçons d'ailleurs aussi, il y avait une sorte de désespoir insoluble.
Et quand je pense à vous, Philippe Besson, je pense aussi au Patient Zéro, un très très joli livre. On s'était vu cet été pour ça, une forme d'enquête littéraire qui vous fait remonter dans le temps. Et dans le temps, c'est les premiers cas de malades du sida. Je suis allée faire quelques recherches. Il y avait un documentaire de Christine O'Krent, c'est dans les années 80, qui parlait de la Californie.
C'est ici, il y a 10 ans tout juste, que les premiers cas de sida, officiellement, sont apparus. Depuis, aux États-Unis, il a tué 2 fois plus que le Vietnam. Le fléau est mondial. 10 millions de malades d'ici l'an 2000. 40 millions de séropositifs, de malades en puissance.
Voilà une façon de revenir sur un sujet que vous aviez très très bien traité dans Le Patient Zéro.
Et qui est évoqué dans Arrête avec tes mensonges, puisqu'il est évoqué dans justement l'inconscience, on ne savait pas, pas gaffe. Quoi.
C'est ça qui est très frappant, c'est qu'on est en 1984, on connaît cette maladie depuis à peu près 2 ans, on l'appelait le cancer gay au début, mais on n'y croit pas. C'est-à-dire qu'on nous dit au début, on ne sait pas très bien sur les modes de transmission, quelle population ça touche.
Ça vient d'un singe vert.
Et donc il y a une espèce à la fois d'inquiétude diffuse, et en même temps on se dit, mais non, ça ne va pas nous arriver à nous. Et puis finalement, finalement, dans les années 80, moi, je vais affronter cette espèce de décimation collective. Mmh. C'est-à-dire que c'est ça qui est très, très étrange et qui continue de me poursuivre des années après. C'est que vous ne vous résignez pas à la mort des gens de 20 ans. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, moi, je ne comprendrai jamais pourquoi je vais sur la tombe de gens de 20 ans. Je comprendrai jamais pourquoi on était sur une ligne comme ça, comme sur un champ de bataille, et puis vous avancez, et puis il y a des balles qui arrivent en face, et les gens qui sont à côté de vous, ils tombent. Il y en a beaucoup qui sont tombés, il y en a 40 millions qui sont tombés dans le monde depuis le début de la maladie, et ça continue de me hanter. Et au fond, je me dis, on écrit aussi des livres pour ça, pour que les disparus soient pas complètement disparus, pour que les absents aient encore une forme de présence, et qu'on puisse penser à eux. Et c'est vrai que le patient zéro, c'était aussi ça, mon ambition. C'était de raconter l'histoire individuelle derrière un chiffre qui est tellement gigantesque, ouais, qu'il ne veut plus rien dire.
Et puis voilà, c'est de réhabiliter aussi la figure de ce jeune garçon, ce Stewart, hein, ouais, qui était une forme de victime expiatoire.
Absolument.
À l'époque, qui a été traité comme un délinquant, comme le pire des délinquants, comme un ennemi public numéro un, alors que c'est simplement... voilà.
Il est à la une des journaux, ouais, avec l'homme qui nous a donné le sida. Ouais. Avec sa photo, et on le désigne, quoi, à la vindicte populaire, en disant, voilà, Gaëtan Dugas, jeune Stewart canadien, qui était certes homosexuel et qui avait certes une vie sexuelle luxuriante, mais enfin qui n'est évidemment pas du tout le premier porteur de la maladie et pas celui qui l'a répandu. Ouais. On le sait maintenant très clairement, il n'y a aucun doute sur le sujet. Mais cette époque avait besoin, effectivement, vous le disiez, de victimes expiatoires. Il y avait besoin, puisque c'était un mal, puisque c'était un péché, puisque c'était horrible, il fallait bien qu'il y ait un salaud qui soit à l'origine de ça. Donc c'était, on désigne le salaud. Et moi, quand on désigne un salaud à la vindicte populaire, en général, ça me donne envie de le défendre.
Dans une Amérique, en plus, très conservatrice,
très puritaine, réganienne, etc.
Très virile, enfin, qui se voulait virile.
Des cow-boys, des castes, des dynasties.
Qui a bien changé depuis.
Oui, vraiment, ça s'est beaucoup amélioré.
Heureusement, au tempora humores, maintenant, 2017.
Le retour aux valeurs vous fait peur, mais il ne faut pas.
Daniel qui est ici, le dépositaire des vraies valeurs traditionnelles, bien sûr.
Philippe Besson est notre invité jusqu'à midi et demi, et nous allons parcourir les années de sa vie en musique, mais avant ça, voici l'humeur de Guillermo Guiz.
Hey,
le Colombien,
allez le Belge.
Allez.
Bonjour les amis.
Salut. Non.
Ok. Bon, alors, comme souvent dans cette rubrique qui n'intéresse personne, je vais vous faire part d'une réflexion à moitié aboutie sur un sujet que j'ai vaguement compris. Comme souvent aussi par politesse, vous allez me dire à la fin, merci Guillermo, très juste votre regard sur la religion alors que je viens de parler de la cuisson les tortellini. Donc ensuite Nagui va réveiller Philippe Besson et tout sera oublié 9 secondes plus tard. Alors je me lance, question.
Oui.
Est-il raisonnable d'apprendre aux machines à tromper, dominer et dépasser l'homme? Question que je vais répéter pour permettre à Daniel Morin de tout saisir et à ce billet de me rapporter 2 euros de plus en droit d'auteur. Est-il raisonnable d'apprendre aux machines à tromper, dominer et dépasser l'homme? Je suis fasciné par l'intelligence artificielle et par tout ce qui est intelligence en général. Autant dire qu'en tant que membre de la bande originale, je ressens un grand manque, un grand vide à ce niveau. Heureusement qu'Albert et Leïla compensent avec d'autres qualités. Mais pourquoi je vous parle d'intelligence artificielle? Eh bien parce que pour la toute première fois de l'histoire, un algorithme a battu les meilleurs joueurs du monde au Texas Hold'em No Limit, la version la plus aventureuse absolument du poker. Et j'ai un peu peur que vous soyez passé à côté de cette info parce qu'elle a été relayée par écrit. Une info cruciale.
Pas mal.
Une info cruciale parce que le poker est un jeu on ne peut plus humain où, contrairement aux échecs par exemple, tu ne connais pas le jeu de l'adversaire. Pour être performant au poker, il faut à minima pouvoir comprendre la psychologie de l'autre, savoir bluffer et avoir été en prison. La plupart des algorithmes ont un casier vierge. Et je sais que c'est un cliché évidemment d'associer le poker à la prison, mais pour avoir joué souvent dans les casinos, je peux vous dire qu'à ta table, tu peux avoir un sociopathe, un dealer de drogue et un animateur télé. Et parfois, c'est même pas la même personne. Je vous promets, c'est tétra chelou le poker au casino, vraiment. Il y a des auditions de Jean-Marc Morandini qui sont moins malsaines. Pas de quoi se faire cuire une couille avec vos histoires de casino, me dira Leïla Kadour Boudadi, élégante, mystérieuse, tellement femme. Et elle aura tort, parce que ce duel entre homme et machine est un tournant dans la progression de l'intelligence artificielle. Le tournoi a duré 20 jours et forcément, pendant que les joueurs humains faisaient des trucs d'humains, notamment à base de paupières, d'estomac ou de narines, et par des trucs humains à base de narines, j'entends juste respirer, Nagui.
Mais j'ai pas compris.
Ils sont les quartiers le colombien en dehors de tout ça. Mais pendant ce temps-là, le logiciel, lui, Il continuait sans relâche à s'auto-analyser, à apprendre de ses propres erreurs et à s'améliorer. Plus le temps avançait, plus il réfléchissait comme un humain, en fait. Au 20e jour, le logiciel, il a gueulé « Tapis, bande de lopettes !» Et dans le pot, tu rajoutes 100 000 balles, les clés de ma bagnole et deux de mes fils. Moi, ça devenait hyper réaliste, en fait. C'est limite flippant. Et ça a marché. Parce qu'à force d'auto-apprendre et de s'auto-améliorer, l'algorithme a fini par dégommer tout le monde et a empoché 1 700 000 dollars.
Sans blague.
Virtuel, évidemment, je vous rassure, à ce stade-ci, on peut encore carotter un logiciel, hein, sans risquer de retrouver une balle dans sa boîte aux lettres ou une tête de cheval sur sa tête d'oreiller.
Et puis, de toute façon, vécu, ça.
Ouais, et puis, de toute façon, 1 700 000, c'est beaucoup trop quand t'es un logiciel informatique. Hein, tu fais quoi une fois que t'as acheté ton appli coke et ton appli pute, hein, tu fais quoi? Il te reste 1 600 000, tu sais plus quoi en foutre, évidemment. Algorithme, c'est pas encore une vie. Mais ça pourrait le devenir. Et c'est ça l'inquiétude des scientifiques les plus pessimistes, c'est qu'à force d'apprendre aux machines à apprendre par elles-mêmes, bah, on risque un jour de les voir nous supplanter ou même à terme de s'organiser contre nous, évidemment. Bon, il y a un peu de marge avant que votre grippin ne prenne conscience de lui-même et se disent tiens, pourquoi j'ai le droit comme vieille miette brûlée toute pourrie pendant que mon maître allait tartiner à chicorée. Il y a le temps, hein, puis qu'ils font d'une armée avec des frigos, des iPods et des presses citron électroniques. Il y a le temps, non, mais le surmoi du toaster, c'est pas encore pour tout de suite. Mais enfin, l'intelligence artificielle forte et hors de contrôle n'est pas un risque à négliger, même si la communauté scientifique est très divisée sur l'imminence du danger. Moi, je sais pas qui a raison, je suis à la science à peu près ce que Philippe Candeloro est au Becherel. Mais je sais une chose, c'est qu'en tant que Sagittaire ascendant flippette, ouais, j'ai eu peur deux fois en regardant Shrek. Donc, je peux vous dire, voilà. Donc, moi, j'ai vraiment la crainte qu'un jour les machines soient suffisamment intelligentes pour construire d'autres machines et qu'avec nos cerveaux Cyril Hanouné, on soit incapable de comprendre leur fonctionnement et qu'en moins de temps qu'il faut pour dire popline, popline, on se fasse dégager façon esclave, hein, limite comme dans Matrix, quoi. Voilà, Nanagui. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Vous pouvez réveiller Philippe Besson.
Merci, Guillaume.
La bande originale.
Philippe Besson, arrête avec tes mensonges chez Julien. Justement, on va se replonger dans cette année 1984. Qu'est-ce que c'était bon, ça?
Ça, oui.
Et d'ailleurs, c'était Neue Nancy Schlupfballon, c'était le des ballons rouges qui avaient
Absolument.
Été lâchés contre le, enfin pour comment dirais-je,
pardon,
contre le SIDA. Non, mais je ne sais pas comment l'expliquer, pour alerter, voilà, sur contre le SIDA. Nena, Neue Nancy Schlupfballon, cette musique est présente dans votre livre aussi.
Oui, parce qu'on écoutait encore une fois, c'est une musique de 84, chanson de 84. On dansait dans les booms sur ça, voyez.
Et c'est un des rares tubes LV2 pour c'est, ça. C'est,
comment
on faisait allemand, oui, LV2 exactement. Pour ça aussi.
C'est un des rares tubes allemands d'ailleurs. S'il n'y a pas tant de tube allemand que ça. Et
Dans les années 40, il y a eu des succès.
Ouais. Et puis après, non, après, il y a eu Tokyo Hotel, mais plus tard. Oui.
C'est ça, beaucoup plus tard. Non, moi j'aimais beaucoup. Et en même temps, c'est aussi une chanson, parce que c'est une chanson politique, on lui a donné plusieurs interprétations. C'était aussi une chanson de la guerre froide, souvenez-vous, de on est USA, Union Soviétique, les Pershing contre les SS-20, etc. Et donc on enlevait les ballons.
Avec la lutte contre
ça a été
SIDA,
réutilisé après coup dans un autre pardon. Clip avec les ballons rouges pour le SIDA. Donc, mais au tout départ, c'est effectivement un truc autour de d'un côté les Pershing, de l'autre côté les SS-20. L'Union soviétique, les USA, et on lançait ces ballons. Et qu'est-ce qui se passait si on lançait des ballons dans le ciel à ce moment-là?
En 1984, donc, c'est l'histoire d'amour avec Thomas. C'est là où se situe votre livre, en tout cas au début. C'est aussi, il y a une phrase qui est clé dans votre relation avec Thomas. C'est il sait que lui sera sédentaire, et il sait que vous allez forcément partir. Ouais. Il dit, vous envoler comme un ballon, mais...
Il dit cette phrase dès le commencement de la relation, parce que je lui dis, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi? Parce que moi, je comprends pas qu'on me choisisse. Je comprends pas que je puisse plaire à qui que ce soit, et encore moins à lui.
Donc, tu partiras et nous resterons.
Exactement. Ouais. Parce que tu partiras et que nous resterons, et je trouve que c'est une phrase sublime, parce que, enfin, elle est à la fois tragique et sublime, parce qu'elle contient une déclaration d'amour, et en même temps, elle contient la fin de l'amour. C'est, il ne se lance dans l'histoire parce qu'il sait qu'elle s'achèvera à un moment. Il a, lui, l'idée déjà, la prémonition de la fin. Et en même temps, c'est une phrase qui contient une forme d'infériorité ou de déterminisme social. C'est-à-dire que dans ça, il me dit, toi, tu auras droit à l'émancipation, à l'affranchissement, à l'envol, à aller voir ailleurs, à construire ta vie autrement, etc., loin de nous.
Enfin, il parlait moins.
Et oui, mais c'est ça qui est dans cette phrase. Et en même temps, lui, il est en train de dire, moi, je resterai là. Je resterai les pieds ancrés dans la terre, au plus près des origines, et l'histoire se finira là où elle a commencé. Moi, je suis voué à continuer l'histoire familiale, je suis tenu par une sorte de devoir. On est aussi, c'est marrant parce qu'on est des enfants obéissants.
Mais pardon, il avait un double poids. Il devait continuer de s'occuper de sa sœur,
oui,
qui avait des problèmes de santé, et il était le seul homme de la famille. Donc, il y avait l'entreprise agricole à récupérer, ce qui est moins le cas quand on est fils d'instituteur.
Oui. Voilà. Oui, c'est pour ça que lui, il se sent un devoir. Donc, il respectera ce devoir qui pèse sur ses épaules.
Et pourtant.
Oui.
À suivre.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans une famille, un homme qui est souvent, extérieurement, on considère que l'homme est privilégié dans la société, qu'il est mieux loti, comment là, il se retrouve absolument dépositaire de tout et coincé, et incapable de pouvoir mener l'existence qu'il veut vraiment vivre.
Oui, il va être prisonnier dès le départ. Et puis en plus, ça se referme tout de suite sur lui. Oui, absolument.
1995, vous écoutiez Michael Jackson. Il n'y a aucun clip en short, hein, tu vois, oui.
Non.
Donc rien à dire. You're not alone. Quand vous écoutez cette musique, vous avez quelles images justement, quel parfum, quel lieu?
Je trouve très triste cette chanson. Elle est sur l'album History. C'est une des chansons les plus lentes de Michael Jackson. C'est un peu sirupeux, hein, bien sûr, mais je sais pas. C'est sur l'idée de la disparition de l'amour. Enfin, moi, je la vois comme ça, comme un truc extraordinairement triste. Alors, c'est un
autrement dit, quand vous écoutez la musique, vous écoutez les paroles aussi.
Oui, je suis très 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 attentif à ce que racontent les chansons. Bizarrement, je rentre dans les chansons par les textes avant d'entrer par la musique. Après, évidemment, c'est la musique qui nous rattrape tout le temps et c'est celle qu'on entend après coup. Mais la première chose que je fais sur une chanson, oui, c'est d'écouter ses paroles. Et donc, la première fois que j'entends ça, je me dis, mais quelle tristesse, quoi. Donc voilà, c'est ça que je.
C'est de la compassion pour Michael Jackson ou c'est quelque chose qui vous renvoie à votre propre tristesse?
Ça me renvoie à ma propre tristesse. C'est-à-dire que c'est aussi le propre des chansons. C'est que quelqu'un les écrit et puis on entend, nous, autre chose qui fait écho à notre propre intimité. Ça nous tend un miroir, on s'y reconnaît. Donc oui, quand j'entends cette chanson-là, ça me ramène à mon propre chagrin.
95, ou du moins les années 95-2000, vous travaillez comme DRH et secrétaire général de l'IFOP, Institut de sondage.
Avec Laurence Parisot, qui est à ce moment-là ma patronne. C'est un moment de ma vie assez étonnant.
Vous savez des sondages.
Oui.
Ça marchait à l'époque.
Et de ce que vous entendez, voilà. Et de ce que vous entendez dans les railleries depuis le Brexit.
Brexit, Trump.
Oui, voilà. C'est-à-dire que ça vous les comprenez, ces railleries, vous dites zut, là maintenant c'est foutu, on va se rendre compte que tous les sondages ont toujours été bidons?
Non, je comprends les railleries et elles sont légitimes parce qu'effectivement il y a eu quelques erreurs cuisantes, mais je voudrais juste dire plusieurs choses. D'abord, la première chose, c'est que un sondage est une photographie à un instant T, n'oublions ça jamais. C'est-à-dire que c'est pas prédictif, ça nous dit pas ce qui va se passer dans 3 mois, ça nous dit l'état de l'opinion 48 heures avant.
On prend la température, ça veut dire qu'elle monte.
Ça c'est un premier point, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser qu'à partir du moment où on nous dit qu'aujourd'hui un tel est à 28%, il sera à 28% dans 3 mois. Non, ça n'est pas certain.
Surtout qu'aujourd'hui,
il y a une espèce de volatilité extraordinaire de l'électorat, beaucoup plus grande que dans le passé. D'ailleurs, avant, les gens étaient d'un bloc. Quand ils décidaient de voter pour quelqu'un, ils allaient jusqu'au bout. Là, on voit bien que il y a des passages de l'un à l'autre beaucoup plus rapides et beaucoup plus fluides. Et la deuxième chose, c'est que on s'attache aux sondages politiques et qui effectivement 1 ou 2% de différence, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que peut-être que la deuxième place ou la troisième place de cette élection présidentielle, elle va se jouer à 1 point ou 2. Si effectivement vous vous êtes trompé, vous vous trompez sur le nom des 2 finalistes. Bon, c'est un peu gênant. Mais quand vous faites un sondage sur, je sais pas, 92% des gens aiment le yaourt machin, qu'il y en ait 91 ou 93, c'est pas très grave. Voilà. Or 95% des activités des sondeurs, c'est plutôt sur des pratiques de consommation, etc. Mais on ne voit que la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire des sondages politiques qui effectivement prête de temps en temps à caution.
Comment un littéraire comme vous, comment un amoureux des mots peut se réaliser au milieu de tous ces chiffres?
Alors d'abord, c'était pas tellement au milieu des chiffres, c'était au milieu de gens qui étaient aussi des sociologues, des chercheurs, des choses comme ça. Donc ça m'intéressait.
C'est faire parler les chiffres.
Oui, ça m'intéressait. Ouais. Et puis il y avait aussi une autre chose qui est, moi je suis très attaché aux personnalités. Donc quand Laurence Parisot, que je connaissais évidemment pas du tout, enfin je l'avais vu à la télévision, mais je la connaissais pas, me dit je cherche comme ça quelqu'un pour travailler avec moi. J'ai envie d'aller rencontrer cette femme. Elle m'intéresse parce que je trouve qu'elle a une personnalité forte. Il y a une énergie qui.
Vous n'avez pas juste envie de trouver du boulot?
Non, non, mais à ce moment-là j'en ai déjà. En fait, l'idée c'est qu'on vient me chercher. C'était l'époque des chasseurs de têtes. On vient, vous êtes dans un endroit, on vient vous chercher pour vous dire est-ce que vous voudriez pas venir ici. Bon. Donc j'étais en plus assez tranquille.
À la belle époque.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et donc, du coup, j'y vais en me disant, j'ai une curiosité pour elle. Et je la vois. Et ce qui m'intéresse, c'est que je comprends qu'elle est en train de chercher quelqu'un qui n'est pas d'accord avec elle. C'est-à-dire qu'elle est en train de chercher quelqu'un qui pourra lui dire, voilà, je cherche pas un béni oui, je cherche plutôt quelqu'un qui va, sinon me challenger, en tout cas, apporter une vision un peu différente. Donc ça m'intéresse. Et j'ai passé 5 ans auprès d'elle assez, riche.
En 1999, vous écoutiez.
C'est le silence qui se remarque le plus.
Chanson qui donne la pêche.
Toujours dans la déconne.
Oui,
toujours dans la déconne.
Volets roulants, tous descendus.
Oui,
bah, faut désolé. Là, les auteurs entre Goldman et Cabrel, ils savent
bien. L'herbe ancienne dans les bacs à fleurs sur les balcons. On doit être hors saison.
Le 4 septembre 99, une rupture sentimentale, encore une, fait basculer votre vie définitivement dans l'écriture.
Oui, c'est à l'issue de cette rupture que je décide de commencer à voilà, un premier roman qui va s'appeler En l'absence des hommes. Et comme quoi, finalement, de temps en temps, ça a du bon de se faire larguer. Ça fait des livres. Et
ça fait des belles chansons.
Cette chanson-là, elle est évidemment très déchirante, très mélancolique, très bien écrite. En plus, il y a un truc sur ça, sur la tristesse des villes balnéaires, des villes de bord de mer, l'automne. Il y a un côté un peu. Voilà, c'est tragique. Hein. Quiconque a fait une ville balnéaire un mois de novembre, c'est moyennement sympa. Bon.
D'ailleurs, ils nous écoutent tous. Surtout des
Et en plus, j'aime l'expression hors saison, et j'ai écrit 3 ans ou 4 ans plus tard un livre qui s'appelle L'arrière-saison, et si j'avais pu l'appeler hors saison, je l'aurais fait, parce que je trouve cette expression magnifique, hors saison.
Quand on dit le 4 septembre 99, vous devenez auteur, j'imagine qu'avant vous aviez évidemment écrit. Est-ce que vous aviez pris des notes pour en revenir à Thomas et à Arrête avec tes mensonges? Vous aviez déjà pris des notes? Aviez-vous un cahier personnel, un journal intime?
Non, j'ai écrit des lettres, c'est-à-dire que j'ai passé des années à écrire des lettres. J'adore l'art épistolaire. Je trouve que c'est bref et assez intense, et en même temps c'est aussi une forme de ça fonctionne de journal intime. Quand vous écrivez des lettres à quelqu'un, c'est pour vous y raconter d'une certaine manière, ou en tout cas pour espérer qu'on entende ce que vous avez à dire. Et donc j'avais beaucoup fait ça, mais j'avais jamais écrit d'histoire, j'avais jamais écrit de livre. Effectivement, en septembre 99, je décide à ce moment-là justement de sortir de la vérité intime des lettres pour raconter des histoires que j'invente, puisque En l'absence des hommes, ça se passe en 1916 pendant la Première Guerre mondiale, et j'ai pas connu. Bon, voilà. Donc, ce qui fait que j'invente cette histoire, et puis d'essayer de me déployer sur quelque chose de beaucoup plus long, parce qu'une lettre, ça fait une page, et là, tout d'un coup, vous essayez de vous engager dans une aventure beaucoup plus grande. Donc, c'était ça l'ambition et le changement et la métamorphose.
Et les lettres auront toute leur importance, elles ont toute leur importance dans ce roman. Arrête avec tes mensonges, Philippe Besson. On a donc demandé à Clio Léonard de venir nous rejoindre. Merci de venir à ce micro. Approchez-vous, n'ayez pas peur.
Bonjour.
Méfiez-vous quand même.
Le micro est un ami. vous vous occupez, pas seul, loin de là, de cette association. Vous êtes délégué pour l'Île-de-France.
Oui, tout à fait.
Il y a combien de bénévoles au refuge?
On a sur Paris-Île-de-France 50 bénévoles, et puis au niveau national 300 bénévoles.
Nous sommes avec le roman de Philippe Besson, plongé dans les années 80, avec un potentiel rejet, un regard, un mépris, des préjugés sur deux garçons qui peuvent s'aimer à l'école. Ça, c'était en 84. Est-ce qu'en 2017, les choses vont mieux?
Écoutez, les choses vont mieux peut-être, oui, mais en tous les cas, chez nous, on voit quand même qu'il y a entre 3 et 5 demandes par semaine de jeunes qui viennent nous voir au refuge pour trouver un hébergement, une mise à l'abri.
C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ont dit ou ont été surpris en train d'aimer l'autre du même sexe, et ça, c'est aussi bien garçon que fille?
Oui, alors c'est plus des garçons quand même, mais on voit de plus en plus de filles aussi frapper à notre porte.
Et qui sont mis... vraiment au sens propre du terme, mis à la porte par la famille?
Ah bah tout à fait, ils sont mis à la porte de leur famille, et du coup ils arrivent souvent au refuge avec leur valise en disant, ben voilà, je suis dehors, est-ce que vous pouvez m'aider?
Et ils ont quel âge en moyenne?
Ils ont entre 18 et 25 ans, la moyenne d'âge c'est quand même 20 ans, et c'est essentiellement des garçons quand même.
Mis à la porte par la famille, c'est la première chose que vous leur dites, que vous cherchez à leur expliquer, c'est...
Et ben on leur dit
quel est le chemin d'explication, moi ça m'énerve tellement que je sais même pas.
C'est un peu compliqué, mais ce qu'on leur dit c'est qu'ils ont rien fait de mal en fait, hein, et que nous ben du coup on va essayer de prendre soin d'eux et puis qu'ils essayent de reprendre confiance en eux, parce que être rejeté par sa famille c'est ce qu'il y a de plus violent en fait en soi, hein, parce que surtout qu'ils ont pas choisi d'être homosexuels ou des personnes transgenres, etc.
Bah, ils ont pas fait d'efforts non plus.
Quand vous dites que vous les mettez à l'abri, ça veut dire les loger, ça veut dire les protéger. Quand c'est on dit abri, mais protéger quoi ? D'une agression, d'une violence ? En plus d'être mis à la porte, est-ce qu'il y en a qui sont menacés carrément ?
Ah bah oui, il y a des jeunes qui sont menacés. Il y a des jeunes qui ont dû fuir leur famille, hein, qui sont partis de chez eux dès que les parents avaient le dos tourné, parce qu'il y a des parents qui ont voulu les tuer. Du coup, nous on les met à l'abri dans des appartements. On va pas communiquer l'adresse de ces appartements parce que parfois c'est difficile. Et puis en plus de cet hébergement, on leur propose un accompagnement social. Du coup, il y a des travailleurs sociaux, un accompagnement psychologique, parce qu'ils ont besoin quand même de se reconstruire et d'apprendre à s'aimer.
Est-ce que vous portez plainte contre ceux qui menacent de tuer, parce que c'est
alors
illégal,
ça, c'est, bien sûr. Après, il y a des jeunes qui l'ont déjà fait. Nous, c'est pas à l'association de le faire, mais les jeunes peuvent le faire, bien sûr.
Et les agressions homophobes en France, quelles sont-elles et jusqu'où on peut aller ? Est-ce que si on se fait insulter avec tous les termes qu'on peut bien connaître pour désigner les homosexuels, est-ce qu'il y a une réponse juridique, la loi et condamne ces personnes qui profèrent de telles insultes ?
Alors oui, la loi condamne les insultes homophobes, hein, tout à fait.
Donc ça veut dire que si dans la rue je me fais traiter de quoi ? Sale pédé, je peux aller porter plainte, mais est-ce que ça va donner suite à quelque chose ? Alors, qu'est-ce qui est toléré ou pas ? Parce que c'est quand même des termes qu'on entend assez communément. Donc
Bien sûr, c'est dans le langage courant et c'est ça qui est compliqué. Hein. Mais normalement, vous avez la possibilité d'aller au commissariat et porter plainte. Il doit y avoir une action.
Et après, c'est parole contre parole et il faut retrouver la personne. C'est
très délicat.
C'est exactement ça.
C'est très difficile.
C'est terrible.
Et puis c'est tellement banalisé maintenant que c'est compliqué.
Alors justement, le réflexe des jeunes qui viennent chez vous, déjà, est-ce qu'il y a un effort psychologique pour venir chez vous, c'est-à-dire comme la démarche d'appeler l'association se fait-elle naturellement ou c'est l'entourage qui, pour les protéger, dit je connais le refuge, est-ce que tu as entendu parler du refuge, il faut que tu y ailles, comment ça se passe ?
Alors ça dépend, il y a plusieurs possibilités, hein. Il y a des jeunes qui vont faire la démarche de taper hébergement homosexuel par exemple sur internet, ils vont tomber sur nous, du coup ils vont pouvoir appeler. Il y a des jeunes pour qui c'est plus compliqué d'aller vers nous et qui vont, on va dire, errer près de notre local et puis à un moment donné, ils vont se décider à franchir la porte en disant, ben voilà, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et puis, on est reconnus quand même de plus en plus pour notre travail. Du coup, il y a pas mal d'assistantes sociales, des personnes qui travaillent dans des lycées qui peuvent prendre contact avec l'association pour nous orienter les jeunes.
Vous êtes la seule structure en France conventionnée par l'État, c'est-à-dire vous avez une aide
de
l'État
tout à fait.
Et des dons aussi.
Oui, tout à fait. On vit d'aide d'État et de dons essentiellement.
Il y a une adresse où on peut
téléphone,
envoyer quelque chose ? Oui, vous pouvez appeler, vous pouvez contacter le refuge sur www.lerefuge.org.
Le-refuge.org. Ouais. Et là, on a toute la démarche à suivre si on veut faire des dons. Est-ce que vous avez, sans tomber dans les sondages ou dans les statistiques, on va dire, cher Alifop, est-ce que vous voyez la courbe plutôt descendante ou ascendante par rapport à il y a quelques années des demandes d'hébergement et de protection ?
Alors non, au niveau du refuge, en tout cas pour les jeunes, nous on voit toujours autant de demandes. Hein. Je parle au niveau des jeunes. Après, je pense au niveau de la société quand même, il va falloir que ça évolue. Je veux dire, le mariage pour tous est passé. Chacun a le droit maintenant de se marier. Et je pense qu'il faut vraiment accepter les choses. Et je pense que la société, à un moment donné, va devoir... et je pense qu'elle commence
question,
quand même à
La question,
accepter.
Pardon, n'est plus le mariage autorisé. La question est d'être banni par sa famille, par son entourage, par son milieu. Et à propos de milieu d'ailleurs, est-ce qu'il y a un milieu qui est plus touché qu'un autre ?
Non, en fait, ce sont tous les milieux hein, qui sont touchés. Hein. Donc il y a pas de. On constate quand même que.
Que l'on soit en province ou que l'on soit dans le milieu urbain, que l'on soit dans un niveau social élevé ou
ça touche
ou normal,
tout le monde.
Ça touche tout le monde.
Ça touche tout le monde. Mmh. Ouais.
Donc c'est pas un problème d'éducation, c'est pas un problème de moyens, c'est pas
non.
C'est juste un problème d'intelligence quoi,
oui,
qui n'a pas
tout
de...
à fait.
C'est fou.
Ouais.
C'est fou. Et votre travail est aussi l'accompagnement psychologique et aussi d'expliquer à l'enfant le comportement de sa famille et d'essayer peut-être de contacter la famille en disant venez lui parler. Est-ce que il y a aussi un rôle de trait d'union ?
Alors il y a toujours une médiation qui est proposée aux jeunes pour qu'on puisse contacter sa famille. Et je vous assure que le jeune, dans un premier temps, il n'en est pas question. Quoi. Le rejet était tellement violent qu'il est
surtout qu'il y a des menaces de mort.
Oui, bien sûr. Et après, ça peut être aussi
même
du
sans menace, de te faire foutre dehors par tes parents.
Exactement. Ouais. Il y a du harcèlement aussi hein, qui peut être fait. On isole le jeune. Hein. Nous, on a eu des jeunes qui, à un moment donné, n'avaient plus le droit de manger dans leur famille. Où on ne mélangeait plus le linge parce qu'on avait peur qu'on le contamine. Mmh. Donc, c'est ça aussi la réalité. Hein.
C'est complètement dingue.
2017, on est d'accord.
Tout à fait, hein. 2017.
Ceci n'est pas un enregistrement de
votre
voix.
Non, je vous parle 2017. En 2017, ouais.
Et certains, alors pour en revenir au roman de Philippe Besson, il y a l'école. Il y a aussi ce qui se passe dans la cour de récré, ce qui se passe, est-ce que vous travaillez avec les enseignants? Est-ce qu'il y a aussi des communications qui sont faites au sein de l'école pour pas que dans une cour de récré, oui. il y ait d'une manière extrêmement violente, sous prétexte de « non mais c'est juste une vanne, ça va, j'ai vanné, je lui dis casse-toi salfiote, c'était juste pour blaguer ». Voilà. Comment expliquer que ce sont des horreurs, même si elles sont par moments profanées aussi dans des émissions à la télé?
Alors nous, on intervient régulièrement dans des collèges et des lycées, on fait des interventions en milieu scolaire, on essaye de lutter du coup contre toutes ces insultes.
Ouais, mais alors comment, ouais.
Du coup, on essaye de déconstruire les préjugés qui sont exposés. Un homosexuel, c'est pas quelqu'un qui porte des paillettes, qui a un sac à main et qui a des talons. Et qui a des relations sexuelles.
Et quand bien même.
Mais quand bien même, et c'est pas non, que. Enfin, je veux dire, c'est vraiment les clichés qui
vous
sont.
Vous verriez Nagui le samedi soir.
Ouais, j'adore mettre des paillettes et des.
Bien sûr, quand bien même. Et c'est vraiment des clichés qui sont parfois exposés au lycée, quoi. Il faut lutter contre ça.
Et les conséquences, justement, de tout ça, c'est des tentatives de suicide, j'imagine. C'est là, parce qu'il y a l'action que vous menez au refuge d'accueillir ces jeunes gens, mais il y a aussi ceux qui ne parviennent jamais jusqu'au refuge.
Bien sûr. En fait, un jeune homosexuel a entre 3 et 7 fois plus de chances de faire une tentative de suicide. Donc c'est quand même important, quoi.
Il faut rappeler que votre roman, Philippe, se situe dans les années 80, 84, et c'est seulement en 82 que l'homosexualité
est dépénalisée.
C'est dingue.
Oui, c'est ça.
C'est ça qui est considéré comme une maladie.
Un délit,
absolument. Ouais.
Si. Ce qui est fou, c'est que effectivement, on est dans une situation encore aujourd'hui, hélas, où effectivement beaucoup d'homosexuels doivent affronter la raillerie, puis ensuite l'insulte, puis ensuite l'injure, puis ensuite l'opprobre, puis ensuite la violence, puis ensuite le rejet de chez soi, etc. Donc il y a effectivement des degrés divers. C'était vrai il y a 30 ans, c'est hélas encore aujourd'hui la réalité, c'est ce que vient de dire Clio très bien. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui touche oui tous les milieux. Moi j'ai réalisé il y a 2 ans un documentaire sur l'homophobie qui s'appelait Homo la haine, et j'étais très frappé de voir qu'effectivement il y avait différentes tranches d'âge, il y avait différents milieux socioculturels, il y avait, disons-le aussi, parfois une intervention du fait religieux, c'est-à-dire qu'effectivement et d'ailleurs de toutes les religions, de ce point de vue-là, elles se ressemblent.
C'est précis maintenant.
Oui, c'est ça. Ouais. Je le dis très clairement, puisque on s'est retrouvé avec.
C'est ça. Ouais.
Et donc, c'était assez frappant, comme la religion était facteur, évidemment, de rejet de l'enfant. C'était assez tragique. Mais moi, ce dont je me souviens le mieux sur les années 80, parce que c'était ma personnalité, c'était que, au fond, moi, j'arrivais à, comment dirais-je, à affronter la violence parce que on peut faire de la castagne, on peut y aller. Enfin, c'est idiot ce que je vais dire, mais il y a un moment on se dit je peux répondre. Mais ce qui était terrible, c'était la raillerie, c'est la moquerie quotidienne. Vous savez, la raillerie, la moquerie quotidienne, c'est comme une espèce de pluie fine et sale qui s'insinue. Il y a un espèce de truc comme ça tombe sur vous, vous avez l'impression que vous en débarrasserez jamais. C'est le poignet qu'on casse en votre présence, c'est la voix aiguë qu'on surjoue, c'est la fellation qu'on mime, c'est une démarche, etc.
Tout ça c'est
incroyablement violent parce que ça vous met à l'écart. Ouais. Tout d'un coup, c'est une façon de vous dire vous n'êtes pas comme nous et vous êtes voilà,
vous pas dans la norme.
Exactement. Or quand on a 16 ou 17 ans, on a envie de ressembler, on n'a pas envie d'être rejeté, on a envie d'être dans un groupe et tout d'un coup, on vous dit toi tu dégages. Et donc ça c'est assez violent. Donc évidemment que le coup de poing, la violence, c'est horrible. Évidemment que le rejet de chez soi et de sa famille, c'est la chose sans doute la pire. Mais au quotidien de vivre effectivement cette espèce de petite insulte qui d'ailleurs parfois je veux pas excuser qui que ce soit, mais parfois est innocente parce que le mec de 16 ans qui vous insulte, il est pas forcément méchant et abruti. C'est juste qu'il a l'habitude d'employer cette expression-là qu'il l'emploie comme n'importe comment. Ouais, voilà, il n'y a plus le sens qu'il donne à ce mot-là. Donc
c'est comme pédagogie. C'est de la pédérastie, c'est-à-dire c'est le rapport aux enfants et aux jeunes et pas l'homosexualité.
Absolument. Et donc il y a un vrai travail pédagogique à faire là-dessus.
Alors justement, Clio, quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui nous écoutent, ça peut arriver à Inter, et qui ont peur d'avouer ou de, enfin avouer encore, c'est quand je dis voilà, oui, un problème de langage aussi.
Ça, ouais. Si avouer, s'ils ont peur, c'est qu'ils ont besoin d'avouer quelque chose. Pour
qui,
eux, ils ont
se,
besoin d'avouer.
Qui se disent en tout cas, je ne peux pas dire ce que j'aime ou qui j'aime.
Bah, je pense qu'ils devraient en parler à leurs amis les plus proches. Je pense que c'est
oui, mais sans savoir quelle réaction, s'ils ont peur justement d'une réaction.
Oui, mais je pense qu'à des amis de confiance, ils peuvent quand même. C'est important de faire confiance à leurs amis. Sinon, bien sûr, ils peuvent contacter notre association. Et puis, s'ils sont au collège ou au lycée, peut-être en parler à un professeur dont il est proche ou peut-être un CPE.
Les mères comprennent mieux que les pères.
Je pense que les mères comprennent mieux que les pères, mais il y a aussi des mamans qui rejettent leurs enfants.
Et des pères qui
acceptent leurs enfants aussi.
Très bien. On va stigmatiser personne puisque c'est voilà. Le propos du refuge. Le-refuge.org si vous voulez faire des dons ou aider cette association.
C'est vachement important. C'est super très important. Utile.
Si je peux dire, si je peux rajouter une chose,
non,
pas, non, d'accord, très bien.
Non, vas-y, vas-y.
Non, c'est que. Le rôle aussi de l'art, c'est-à-dire des films, de la musique, des livres, est extrêmement important. Parce que quand vous voyez un film, là j'ai vu par exemple Moonlight
longtemps. Je rajouterai aussi les médias.
Non mais bien sûr, c'est-à-dire tout d'un coup, c'est dire à un jeune homme, à une jeune fille, tu n'es pas tout seul. Moi je me souviens que c'est en lisant Hervé Guibert en 83 que je comprends que mon histoire, elle a été racontée par quelqu'un d'autre, et donc que c'est possible, et donc que c'est pas mal. Ce que disait Clio, c'est n'est pas mal. Donc ça vous sauve de quelque chose, c'est comme une main qu'on vous tend. Donc de temps en temps, quand on écoute une chanson, on voit un film ou quand on regarde la télévision ou je sais pas quoi, il y a la possibilité de sortir de son isolement.
Et je dois faire mon mea culpa aussi en ne me rendant pas compte par moment de plaisanterie.
Non, on a aussi le droit de plaisanter. Faut pas non plus.
Non, mais j'entends par là. Mais c'est vrai aussi que de dire à quelqu'un mais bonjour mon petit chou, machin. D'un coup, ça devient un cliché. Ça peut devenir une raillerie.
Je suis d'accord.
Je pense que
faut faire attention.
Voilà, notre rôle.
Dieu sait si vous le faites.
De moins en moins, parce que je trouve ça finalement grave. Et je le faisais comme une espèce de vanne quotidienne. J'ai mes pensées et mes convictions personnelles et au refuge, ils le savent aussi pour soutenir ce genre de cause. Mais je ne ferai qu'encourager mes camarades de jeu qui ont la chance d'avoir un micro ou une caméra de faire attention au curseur où on peut placer une vanne parce que ça, évidemment, ça ne peut être qu'une vanne, mais ça peut faire énormément de mal, surtout dans ceux qui après reproduisent la vanne dans la cour de récréation.
C'est très important
sans
ce que tu dis.
Sans se rendre compte du mal qu'ils peuvent faire. Merci Clio, portez-vous bien.
Merci beaucoup.
Daniel Morin, je voulais...
Oui, je suis là.
Qu'est-ce
qui se passe ?
Je sais que vous êtes là. Malheureusement, vous êtes là.
Mais c'est agréable.
On voit qu'encore aujourd'hui, dans certains milieux, et même dans,
j'ai droit à ma différence.
Dans tous les milieux, il faut, je dis pas il faut, mais enfin, on a l'impression qu'il faut cacher son homosexualité, et c'est ça qui est terrible pour celles et ceux qui voudraient juste vivre simplement et...
Stop et arrêtez tout de suite. J'ai dit stop. Mais enfin, merde, comment peut-on chaque jour être aussi visionnaire que vous ? Vous, monsieur Guy, si ça continue, vous allez me donner envie de suivre vos conseils et de voter Marine Le Pen à la présidence. Quelle fulgurance, quelle vision, quel œil ! Même si aujourd'hui, on est plus proche de la vision d'un Red Charles que celle d'un tireur d'élite. Non, monsieur Guy, non. Le vrai sujet tabou aujourd'hui est l'hétérosexualité en milieu hostile. Et même si vous vous en foutez, c'est malheureusement le combat que je vis au quotidien, France Inter et dans le showbiz, où mes pratiques dérangent
encore. En même temps, il faut dire que l'hétérosexualité, c'est particulièrement dégueulasse.
Oh, ça va, Bérabère, je vous en prie, n'en rajoutez pas.
Alors d'abord, je dis ce que je veux. Deuxio, c'est vous qui avez écrit le sketch. Alors si vous voulez pas que j'intervienne, faut écrire pour moi. Bon, alors un mec qui écrit pour un autre et qui in fine ne veut pas qu'il parle, j'appelle ça un crétin.
Oui, c'est bon.
Surtout quand il sait pas lire.
Oui, c'est ça, vous disiez mon père.
Je disais que l'hétérosexualité est une infamie, une aberration sensuelle. Moi, ces créatures diaboliques qui agitent leurs mamelles pour rendre les hommes fous de désir, ça me donne des hauts le cœur.
N'importe quoi. Vous savez que c'est de l'hétérophobie ce que vous faites.
Et je ne suis pas le seul à penser comme ça, même si je dois admettre que tu as un peu raison, Daniel.
Ah, quand même.
Je me souviens quand j'étais jeune séminariste, un jour, il y a un jeune serbe d'une beauté enivrante qui est arrivé et qui nous a tous rendus dingues. Le gars, dès le premier soir, il nous a dit « Je kiffe les nonnes, elles me rendent fou, j'aime copuler avec ». Il a été considéré comme un paria.
Ça s'est résolu comment?
Ben, j'ai mis une cornette et le tour était joué. Il est devenu fou amoureux de moi et c'est parfaitement intégré.
Merci mon père. Voilà. Vous voyez, monsieur Guy, oui. L'hostilité a changé de camp. Une fois encore, mon pauvre ami, vous avez dit...
N'importe quoi.
Merci Daniel Morin.
Ah tiens, une musique aussi que j'avais envie d'entendre qui fait partie de la BO du livre de Philippe Besson, Arrête avec tes mensonges. Live and Let Die, cette musique fait partie de la bande originale de aussi et de cette émission maintenant et de votre livre chez Julliard, Arrête avec tes mensonges, autant d'ailleurs pour le plaisir de la musique que pour l'émission de télévision qu'elle incarnait,
et la
présence de Jean-Marie Le Pen.
La première présence de Jean-Marie Le Pen à L'Heure de Vérité, c'est 1984. Il entre sur cette musique
Henri de Virieux.
Triomphale, voilà. Je me souviens du choc ressenti quand il entre sur le plateau la première fois. On se dit, bon ben ça y est, ils sont dans le cercle quoi.
Justement, l'information, c'est ce qui vous arrive maintenant sur Inter. Philippe Besson est notre invité jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoumoudadi.
Bonjour.
Bonjour. Daniel Morin. Et Charlotte qui est au clavier. Et notre invité, Philippe Besson. Arrête tes mensonges, arrête avec tes mensonges, arrête avec tes mensonges.
Mensonges.
Chez Julia, je sais pas, mais j'ai à dire, en fin de semaine.
Vous êtes encore dentier tous les deux, non?
C'est pour ça que la semaine prochaine, c'est pas moi qui ferai l'émission, mais tour à tour, il y aura Leïla, Daniel. Non, je me suis trompé dans l'ordre.
Tom.
Non, Leïla.
Oui,
c'est
ce que j'ai dit. Leïla, ouais. Tom et Daniel. Ouais. Voilà, c'est ça. La semaine prochaine, pendant que je me reposerai, mes camarades vont travailler. C'est très bon cette situation, j'adore. Philippe Besson, arrête avec tes mensonges. Avec tes mensonges chez Julliard, est-ce que vous êtes posé des questions sur aussi la manière de le raconter? Parce que c'est vrai que tout à l'heure Leïla le disait, vous êtes romancier, vous racontez une histoire vraie, on peut l'embellir, on peut essayer de se rapprocher le plus possible de la réalité, c'est extrêmement bien écrit, évidemment on aime votre plume dans cette émission, vous le savez, mais vous pouvez aussi prendre différents chemins, différents angles, différents prisme pour raconter des histoires. Vous êtes posé la question ou c'était une fulgurance, c'était une évidence?
Alors c'est venu vraiment avec une grande facilité, une grande fluidité. Je le disais, j'ai vraiment écrit en une sorte d'état d'urgence. Donc je me souviens de quelque chose de très simple, de très naturel. Voilà. Après, il y a évidemment une question de, une fois que le texte existe, qu'il a été jeté comme ça sur l'écran, il faut le reprendre pour être sûr que on a justement le ton juste. Et puis surtout qu'il y avait quand même des allers-retours permanents entre le passé et le présent. Parce que c'est aussi une façon pour moi de dire comment une histoire vécue à 17 ans a un impact considérable sur ma vie et comment elle détermine l'homme que je suis devenu et l'écrivain que je suis devenu. Donc il fallait trouver ce passage entre les temporalités qui était le plus difficile parce qu'il ne faut pas que le lecteur se perde là-dedans, donc il fallait travailler ça. Et puis, de la même manière que dans tout roman, il y a une part irréductible de vérité intime, dans tout récit autobiographique, il y a une part irréductible de fiction. Donc il y a forcément ce que on recompose, ce qu'on réinvente ou ce qu'on transpose.
C'est quoi? C'est le jugement des copines, par exemple, c'est celle qui avait tout
non,
deviné.
Non, ça c'est vrai. D'ailleurs, c'est toujours ma copine. Je l'embrasse parce que je sais qu'elle écoute l'émission. Donc, c'est vrai. Mais après, il y a des transpositions parce que ma volonté aussi, c'était de blesser personne. Donc, il y a des géographies qui sont de temps en temps changées. Il y a des identités qui sont de temps en temps modifiées. Parce qu'encore une fois, quand on écrit un livre sur sa jeunesse, souvent, les gens veulent faire un règlement de compte. C'est famille, je vous hais, je sais pas quoi, ouais. Au passé, je vous déteste. Bon, moi, pas du tout. Je veux me souvenir d'un temps heureux. Parce que ce qui est assez frappant pour moi, c'est que j'ai voulu dire, nous avons été heureux. Ça nous est arrivé. On a été heureux. Après, la vie s'est chargée de nous cabosser un peu. Mais
Se perdant dans une fête foraine.
Ah oui, ça c'est terrible.
Histoire vraie.
Oui, ça c'est vrai aussi. C'est cette terreur de l'enfant abandonné.
ça m'est resté longtemps. C'est peut-être
ce qui peut arriver, ce qui peut arriver à plein d'enfants dans un supermarché, oui. Une grande surface, avec.
Je pense que ça crée
le
des traumatismes
petit Philippe
violents.
Est attendu par sa maman. Sauf que là, dans une fête foraine, il n'y a pas de micro et il n'y a pas d'appel général. Quoi.
Vous n'êtes pas d'accord que ça peut créer des traumatismes super violents chez les enfants?
Je sais pas. Moi, non, ma maman m'a toujours aimé.
C'est vrai. Maman, si tu nous écoutes, je sais que tu m'aimes. Mais non, c'est vrai que c'est l'idée de la fête foraine. Vous êtes là, je regarde les manèges et tout, et puis ma mère s'éloigne ou la foule m'éloigne d'elle, et tout d'un coup, quand je me rends compte qu'elle est plus là, je panique absolument. Mmh. Et je me dis, ma mère m'a abandonné, c'est fini. En fait, je me dis, elle m'aimait pas, j'en ai conscience maintenant, et elle a profité de ce moment pour se barrer. Donc c'est juste
que vous avez, c'est que vous à l'école, comme votre père était instituteur, on pouvait pas vous oublier devant la grille.
Ah ça, c'est sûr que non, parce que je vivais dans l'école.
Et l'inconvénient, c'est qu'il ne sortait pas beaucoup, y compris l'inconvénient pour des lieux de rendez-vous.
Absolument.
Et pour ce.
C'est-à-dire que pendant toutes ces années cachées. D'enfance et d'adolescence, le monde extérieur n'existe pas. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que moi, je suis le fils de l'instituteur, donc effectivement, je grandis dans une école. Au premier étage de l'école, il y a notre maison. Donc moi, ma chambre donne sur les tilleuls de la cour de récréation. Donc c'est ça quand même mon enfance. Et puis, c'est les années 80, donc il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Donc le dehors n'existe pas. En plus, moi, on me dit qu'il faut aller se coucher à 8h30. Donc genre, le premier film que je vois, c'est j'ai 12 ans. Donc c'est quand même... Je viens de ce temps-là. On a l'impression que je parle des années 30, des années 20, mais non, c'est les années 80. Donc c'est une enfance très protégée, c'est comme un cocon. Donc du coup, il faut inventer des façons d'exister à un moment ou à un autre quand vous avez 17 ans. Oui.
Et vous tombez sur ce beau gosse, Thomas Andrieux, qui a aussi le don, n'y voyez aucune... allusion Père Albert, qui a le don de faire sauter toutes les serrures et tous les verrous.
Les serrures seulement.
Et de pouvoir rentrer dans tous les lieux impénétrables. Puisqu'il vous permet.
Je vous laisse continuer.
C'est le champion de la métaphore.
C'est pas charitable de votre part de le laisser comme ça.
C'est pas cool.
Parce que c'est justement, c'est bien. Je veux savoir jusqu'où il va.
Faire sauter les serrures impénétrables. C'est du langage codé.
Puisqu'il arrive à ouvrir les gymnases, à ouvrir des cabanes où sont stockés.
Des cabanons près des stades.
C'est ça.
Des
cabanons près des stades. Ça, c'est aussi vrai, ça. Parce qu'il y avait effectivement juste à côté du lycée, vous savez, le terrain de foot où vous allez, puis il y a l'endroit où vous rangez les ballons, les machins, je sais pas quoi.
Les petits bulles, les cônes, enfin, tout ce qui sert après pour le sport.
Qui est un lieu où vous n'avez pas le droit d'entrer, vous savez, il y a quelqu'un qui a la clé, tout ça. Et Thomas savait effectivement faire sauter les serrures, donc on avait le droit d'entrer dans ces endroits-là qui sont extrêmement utiles quand vous avez besoin de vous cacher des regards. Voilà.
Arrête avec tes mensonges, à commencer par ceux de la maman, parce que vous avez un imaginaire très poussé, et par les mensonges que l'on peut se faire à soi-même ou qu'on peut se faire au sein d'une relation amoureuse, ne pas se dire la vérité non plus ou pas le faire très directement. Mais tout s'éclaire en tout cas à la fin de ce roman, qui est une histoire d'amour. On passe de l'amour, attention, à dépressurisation, à Daniel Morin.
Oui, d'accord.
Ce soir, c'est l'événement musical de l'année, les victoires de la musique. Tout le monde de la musique est en effervescence.
Ah bon ?
C'est la soirée à ne pas manquer. J'imagine que vous en serez, Jean-Philippe Manœuvre.
Mais bien sûr, Danaï, j'y suis chaque année, depuis que c'est plus Nagui qui présente.
Oh, ça va, arrêter avec ça. Nagui est sûrement celui qui est le plus familier avec l'espace musical français.
Non, mais t'as vu comme tu parles de la Zikmou, mec. L'espace musical français. On n'est pas chez les Bogdanov, putain. On parle music, on parle sensation, on parle feelings.
Oh, c'est bon, ça va.
N'empêche que t'as raison. Nagui, c'est un peu l'astronaute de la musique. Quand il en parle, il sait pas où il va.
Ok, merci Jean-Philippe. Amusez-vous bien ce soir et profitez de la musique.
Ah, oh, mais j'y vais pas pour la musique sur scène, on stage. J'y vais pour la drogue dans les loges, backstage.
Super, merci. Allez, salut. Bon, moi, en tout cas, je vais regarder. Hein. J'adore cette cérémonie.
C'est de la merde.
Ah, Maréchal, qu'est-ce qui est de la merde? Qu'est-ce qui est de la merde?
Les victoires de la musique.
Et pourquoi ça?
Vous avez vu la liste des artistes qui sont nommés? Enfin, si on peut appeler ça des artistes.
Oh, ben quand même. Christophe Maé, c'est pas n'importe qui.
Ah non, mais c'est n'importe quoi.
Bon, ça va. Hein.
Il y a Amir.
Amir avec son tube « Au cœur de moi ».
De la merde. En plus, « Au cœur de moi », c'est même pas français, ça. Ça veut rien dire. Il n'y a pas une seule catégorie valable dans ce bordel.
Je sais pas ce qu'il vous faut. Il y en a plein de catégories.
Il n'y a pas la catégorie « chanson militaire ».
Au lieu de râler, fallait la proposer.
Mais je l'ai fait. Et ces cons-là, ils ont refusé.
Ah, c'est con.
Comme vous dites, ça aurait eu tellement de gueule. Imaginez un peu.
Dans la catégorie meilleure chanson militaire sont nommés Ferdinand Ganache avec Les Viettes. Contre les Viettes, contre l'ennemi, partout. Nommé également Ferdinand Ganache avec Les Paras. Faut chanter comme eux, faut du poids d'honneur, et bien entendu, la 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 la. Nommé aussi Ferdinand Ganache avec Tiens. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Et le gagnant est... Ferdinand Ganache avec Les Viettes.
Bravo.
Oh, merci, merci. Je ne m'y attendais pas, mais ça me fait très plaisir. Alors, bien sûr, j'ai une pensée pour mes camarades de guerre, mes frères de sang, et aussi, bien sûr, pour Edmond, la maréchale. Edmond qui, à chaque fois que, dans l'intimité, je sonnais la charge du bosquet de sa montagne sacrée, me disait « Vas-y, Ferdinand, chante, chante, mon légionnaire, chante, mon soldat, et massacre-moi. Je suis pas... ta mère. »
On l'a perdu.
On l'a perdu.
Il est triste.
Oui. J'ai envie de chialer.
C'est n'importe quoi.
Me manque tellement.
Merci, maréchal.
C'est que le mot était rayé.
Non, il a été réécrit, mais salement. Merci maréchal. Bon, alors, sans catégorie de la meilleure chanson militaire, j'espère quand même que ça va bien se passer. En même temps, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il y aura Christophe Maé.
Ça, c'est bien.
Et ben, le bonheur, il est sur France 2 ce soir à partir de 20h. Bon week-end.
T'étais obligé, on est partenaire, t'as reçu un chèque, qu'est-ce qui s'est passé?
Un énorme.
C'est moi
chèque.
Qui suis au journal juste avant. Alors,
ah, c'est voilà. Toi le 20h ce soir.
Et oui.
Ah bah voilà, on va regarder.
Voilà.
Très bien. Et ensuite, c'est Thomas Touroud et Bruno Guillon qui présenteront ces victoires de la musique sur France 2. Et il y aura également ces victoires sur Inter, puisque Inter est partenaire.
Avec Vali.
Voilà, Didier très bien. Nous avons maintenant pour vous Philippe Besson.
Rebecca Manzoni, pas Vali.
Pardon ?
Rebecca Manzoni.
D'accord.
Parce que Vali, on ne comprenait pas quand elle parlait.
J'ai d'autres, mais elle est très bien, Vali, je l'embrasse.
Ouais,
je l'aime. Je l'aime, Vali, je l'aime. Meilleure animatrice de musique de radio au monde. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour Boudadi pour Philippe Besson.
Philippe Besson, je vous sors de la promo, un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous.
Allô ? Qui ça ? Thomas ? Comment ça se fait qu'il m'appelle ?
In a place. Tu viendras avec moi demain. Il faut que je retourne à l'hôpital.
Pardonnez-moi, j'ai oublié votre profession.
Infographiste.
C'est ça. Je ne sais pas bien ce que c'est, mais quand je vous vois, je me dis que c'est sûrement passionnant.
C'est un extrait de la bande-annonce de Son frère, de Patrice Chéreau, adapté de votre livre en 2003. Est-ce que Chéreau vous a laissé de la place? Est-ce que vous avez, ça doit être un rêve de se dire que son bouquin est acheté par Patrice Chéreau et qu'il veut le transformer en film. Est-ce que vous avez un peu travaillé ensemble? Comment ça s'est passé?
C'était une rencontre incroyable, Chéreau, parce que il avait lu le livre sur la base d'une critique qu'il avait lue dans un journal, et puis il a appelé tout de suite. Il y avait comme ça une espèce d'immédiateté chez lui, donc il a appelé mon éditeur et puis on lui a donné mon numéro, et donc j'ai un type au téléphone qui me dit c'est Patrice Chéreau. Donc j'étais un peu surpris, et puis j'ai compris que c'était lui. Je suis allé le voir, je me souviens très bien, il habitait rue de Braque à l'époque, donc je monte l'escalier, il était en haut, et j'étais tremblant vraiment, parce que pour moi c'était évidemment quelqu'un de très important. Je connaissais son œuvre au cinéma, au théâtre, bon. Et travailler avec lui, c'était un truc très étrange, parce que à la fois c'était une personnalité extrêmement forte, extrêmement écrasante. C'est un dominant, Chéreau. Donc il fallait tenir le choc face à lui. Et en même temps, c'était une puissance créatrice phénoménale, une intensité hors du commun. Moi, j'ai adoré être aux côtés de cet homme pendant des mois, puis de le suivre après. Encore un qui n'est plus là.
Et ce film a reçu l'Ours d'Argent au Festival de Berlin.
Et c'est puis la chanson de Marianne Faithfull qu'on a entendue, qui est une chanson sublime, qui est la seule parenthèse musicale du film, parce que c'est un film d'une heure et demie où des silences ou des dialogues, beaucoup de silences, un peu de dialogue, et juste ça, Marianne Faithfull au milieu.
Est-ce qu'il est imaginable que Arrête avec tes mensonges soit un film ?
Alors c'est imaginable parce qu'il y a des propositions aujourd'hui effectivement de plusieurs producteurs pour en acheter les droits, donc on verra ce que ça fait.
Quel trouble pour vous ?
C'est très troublant. Parce que, oui. C'est très troublant. Alors donc il faut en fait s'en détacher et ça répond aussi à la question d'Hélène sur
Chéreau. C'est votre histoire, c'est
oui,
votre vie.
Mais c'est-à-dire que moi je crois à une chose, je crois que les meilleurs films adaptés des livres sont ceux qui les trahissent. Mmh. C'est-à-dire Chéreau, il a réussi son film, son frère, parce qu'il a trahi le livre magnifiquement. Donc il faut attendre d'un cinéaste.
C'était la formule de Philippe Labrou à ce micro aussi, qui disait il faut que le livre soit trahi.
Absolument. Et moi, j'attends une magnifique trahison de ce livre-là. Comme ça sera regardable pour moi.
Et vous aimeriez que ce soit quel
Je ne sais pas. Il faut que le désir vienne des gens. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui viendra et qui dira moi j'ai envie. Et puis
le désir
si
est à double sens. Aussi.
Oui, bien sûr. Mais j'attendrai qu'on me dise. Voilà. Je fais pas de. Surtout que quand on écrit un livre, surtout celui-là en plus, on se pose pas la question de ce qui va devenir après. Mmh. Donc on se pose pas la question du film. Même si il y a une chose qui est intéressante, ça répond aussi à ce que vous disiez sur l'écriture tout à l'heure. Il y a des livres qu'on écrit à l'oreille, il y a des livres qu'on écrit à l'œil. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des livres qu'on écrit en entendant une musique. D'ailleurs, on se fait accompagner par la musique. Moi, je me souviens d'avoir écrit un livre sur la musique des heures de Philippe Glass, par exemple. Et puis il y a des livres qu'on écrit à l'œil, c'est-à-dire qu'on voit les scènes. Celui-là, c'est d'ailleurs un livre beaucoup écrit à l'œil. C'est-à-dire que je revoyais forcément les choses. Et donc, c'est pas les mêmes livres. Et souvent, les livres qui sont écrits à l'œil, en les voyant, ça peut effectivement plus facilement faire des films.
On poursuit avec un autre son.
Deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, déjà assez hideux. Il y a quelque chose de choquant, c'est inesthétique.
Des gays, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. Et c'est comme s'ils faisaient du cinéma, c'est pas naturel.
Je parle que de mon histoire et je continuerai à en parler tant que ça ne décera pas ces agressions homophobes qui ne seront basées uniquement que sur le fait que des gens ne comprennent pas qu'on ne puisse pas aimer de la même façon qu'eux.
Voilà, c'est un extrait de votre documentaire « Homo, la haine » qui a été diffusé sur France 2, qu'on devrait encore regarder aujourd'hui. Rien de plus, c'était juste pour entendre ces propos, comme ça, je me dis que ça peut...
C'est triste,
ouais. Renvoyer... Propos tenus pour certains d'entre eux en 2014. Hein.
Absolument, et ça renvoie au magnifique boulot que fait l'association Le Refuge, dont on a parlé tout à l'heure. Et je finis avec des cadeaux, avec une note joyeuse. Mm-hmm. Philippe Besson, je vous offre deux bouquins concernant tous Tarkovsky, le cinéaste. Mm-hmm. Là, c'est son journal de 1970 à 1986, édité chez Philippe Ray, c'est l'édition des définitive. Alors, comme je sais que vous aimez la correspondance, j'imagine que vous aimez aussi le récit individuel, parce que souvent on écrit à l'autre pour se raconter d'une
Absolument.
Certaine façon. Mmh. Et donc c'est hyper bien documenté. Là aussi, c'est toute cette période de 70 à 86. Tarkovsky, c'est le réalisateur de L'enfance d'Ivan, du Miroir aussi, de Stalker, du Sacrifice. Et là, il publie, toujours dans la même édition, Philippe Refuge, c'est les récits de jeunesse de Tarkovsky. Et c'est très très beau. C'est très très beau. Voilà.
Merci infiniment. Et moi, je vous offre Arrête avec tes mensonges. C'est un très bon livre. Il paraît que vous l'avez écrit, mais comme ils mentent tellement, les auteurs,
c'est possible que ce soit pas moi, c'est ça. Ouais, oui.
Et Albert a raison d'ajouter que c'est aussi le réalisateur d'Andrei Roubleff.
Qui est un film absolument extraordinaire. On trouve en DVD. Regardez Andrei Roubleff.
Philippe Besson est notre invité. Il signe Arrête avec tes mensonges chez Julliard.
Why don't you call my
Peter Gabriel avec Sledgehammer dans la bande originale de votre matinée. Philippe Besson est notre invité avec Arrête tes mensonges, ce roman chez Julliard qui est en tête des ventes au bout d'un mois de mise en vente et d'édition. J'imagine, on en parle un tout petit peu. C'est un plaisir. Ça fait quoi? Ça picote dans le ventre et dans le cœur.
Ça fait très très plaisir. C'est vrai. Moi, je l'ai jamais été numéro un des ventes. Non, vraiment. C'est la première fois de ma vie.
Je
n'ai jamais été numéro un des ventes. Jamais. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, je prends ça comme une espèce de. Oui, c'est ça.
C'est bon.
Je prends ça comme
une double reconnaissance.
De magnifique, de divine surprise. Je suis plein de gratitude d'ailleurs parce que je me dis, voilà, je m'attendais tellement pas sur un récit aussi intime que je me pince pour voilà, mais je suis très 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 heureux. Évidemment,
enfin, de là, tous nous inviter à déjeuner.
Voilà.
Merci beaucoup.
Allez, c'est de bon cœur.
Des excuses à présenter, Daniel, après ce genre de bêtises.
Désolé pour nos auditeurs traditionnalistes, réac et logiquement fans de Nagui, qui ont été choqués par l'ouverture d'esprit de l'émission de ce matin. Voilà, je veux vous dire que voilà, vous êtes tous des cons, si c'est vraiment le cas. Désolé pour Hervé Villard, dont l'immense carrière a été salopée, piétinée par Nagui et Albert Algou. Hervé, si tu nous écoutes depuis là-haut, ça j'étais dans le cœur.
Reviens, mais non, mais il est vivant, ça.
Non, c'est son hologramme.
Il est vivant. Alors on t'embrasse. Désolé pour les fans de Taratata qui ont découvert ce matin la vraie culture musicale de Nagui. Et oui, toujours préféré Wham à Bruce Springsteen. Désolé pour nos auditeurs durs de la feuille qui n'ont pas entendu comment aider l'association Le Refuge. Rien de plus simple, les amis. www.lerefuge.org.
Voilà qui est dit. Merci Daniel. Lundi, c'est Leïla qui va conduire la bande originale avec toute l'équipe et Reda Katem qui sera votre invité. Merci mille fois Philippe d'être
merci
venu
Nagui,
et encore
merci
bravo
à tous
pour ce roman, cette histoire d'amour.
À table.
Arrête avec tes mensonges. Les carnets de campagne, et voici avec Philippe Bertrand. Bonne journée sur Inter. Merci.
Merci Nagui, merci la bande. À lundi.